La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, vous voulez peut-être créer votre potager chez vous, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est mon cas hein, Elisabeth. Je crois que vous m'avez trouvé une solution, elle s'appelle Prête à pousser.
Elle est sur mesure, elle est pour vous Raphaël. Prête à pousser a déjà 6 ans et elle est l'une des premières startups qui a investi donc le créneau du potager à domicile, notamment à destination des personnes comme vous et comme beaucoup d'entre nous qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément des grands jardins pour pouvoir faire pousser des plantes ou des aromates. Alors c'est très sérieux, cette start-up dispose même d'un pôle de recherche et développement qui travaille sur l'amélioration des produits. Elle développe la gamme de plantes à cultiver à la maison. On va tout savoir. Bonjour Romain Béhagel.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Prête à pousser. D'abord, comment ça marche Prête à pousser? Parce que pour celles et ceux qui n'ont pas la main verte, ça semble très très facile quand on se connecte sur votre site.
Tout à fait. Alors, le principe, c'est qu'on vient réunir toutes les conditions qui sont essentielles pour qu'une plante se porte bien. Donc, il faut de la lumière. Vous allez avoir un éclairage LED basse consommation qui vont reproduire la lumière du soleil avec un cycle jour-nuit automatique. Et ensuite, on vient proposer à la plante les nutriments, donc les bons sels minéraux, phosphore, potassium, etc., pour que la plante puisse vraiment s'émanciper dans son potager d'intérieur. Donc, comme on maîtrise bien toutes ces variables-là, il n'y a plus trop d'aléatoires. Et donc, même ceux qui n'ont pas la même verte peuvent s'en sortir.
Oui, on n'a pas besoin de, on a besoin de rien faire.
Là, voilà, vous avez une belle Batavia sur dans le studio.
Oui, elle est avec nous, la Batavia, si vous nous suivez sur Europe1.fr.
Alors, je crois que vous proposez trois types de produits. Hein. Vous pouvez nous les décrire?
Alors, l'aventure a commencé avec des kits à champignons, effectivement, oui, mais c'est un produit qui est on va dire, moins ambitieux que le reste de la gamme sur les plantes. Et ensuite, nous avons deux potagers d'intérieur. Donc, un produit qui s'appelle Lilo, qui est un jardin d'intérieur, donc idéal pour faire pousser des plantes aromatiques, basilic, menthe, ciboulette, à portée de main. Vous êtes en train de cuisiner, vous faites une petite découpe de ciboulette pour agrémenter vos vinaigrettes. Et ensuite, nous avons Modulo, qui est un potager d'intérieur évolutif. Donc, c'est le grand frère, un petit peu plus ambitieux. C'est une sorte de pergola sous forme de Lego. Donc, vous pouvez les imbriquer au mur, les mettre au sol sous forme de paravent pour couper une pièce en deux. L'objectif, c'est de donner plus d'ambition à ce concept et de venir investir tous les recoins de votre appartement.
Alors, au niveau des chiffres, hein, je crois que vous doublé votre chiffre d'affaires hein, tous les ans depuis 2013, depuis la création de Prêt-à-pousser. Comment est-ce que vous expliquez ce succès?
Parce que c'est la France qui pousse. Je pense qu'on a tous, la petite blague, on a tous en nous ce besoin de se reconnecter, de se réapproprier son alimentation. Et là, enfin, on a réussi à réunir une technologie qui est simple, qui est fiable, clé en main, qui rentre dans votre appartement et qui est abordable, pour que vous puissiez vous-même récolter vos plantes. Donc c'est quelque chose d'assez universel, on répond à ce besoin-là. Donc c'est
un produit qui marche le plus, le mieux.
Alors dans le best-seller, effectivement, il y a le basique grand vert, donc c'est le grand basique du pesto qu'on connaît tous. Mm-hmm. Vous avez les mini-tomates aussi qui fonctionnent très très bien. Et les salades, qui est une gamme qui est sortie il y a quelques mois, Batavia, feuilles de chêne, scarole, etc., qui fonctionnent très très bien. Parce que c'est vraiment...
ça marche dans ma petite cuisine, sans trop de place, je peux avoir ma Batavia là.
Tout à fait, ça marche dans votre cuisine. On s'adresse à ceux qui n'ont pas accès à la terre, qui vivent dans des petits appartements en centre-ville. Et comme on a un dispositif qui est bien conçu, en fait, ça ne prend que la place des plantes, effectivement. Donc une Batavia, il faut la laisser respirer un petit peu. Mais en fait, au mur, vous pouvez vite investir des surfaces qui ne sont pas exploitées. Vous enlevez le cadre de la grand-mère. Et à la place, vous mettez votre rangée de scarole.
À côté.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour ceux qui veulent vraiment donner toute l'ambition à ça.
Evelyne ?
Alors, moi, j'adore. Puis, en fait, c'est vrai que c'est une entreprise en pleine croissance et avec un vrai succès, avec un vrai modèle. Alors, tout le monde ne voit peut-être pas le produit, mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet.
Il est très, très
bien fait. Puis les produits sont superbes. Moi, j'ai une question un peu plus technique, business. Vous êtes très B2C aujourd'hui en distribution.
Tout à fait.
Moi, j'ai vu des gens qui faisaient fortune en allant arroser les plantes dans les bureaux des gens parce qu'il y a de l'abonnement, parce que les gens ont besoin de plantes, etc. Est-ce que demain, vous n'auriez pas un modèle un peu plus B2B où vous installez des potagers dans les bureaux que vous...
Donc à destination des entreprises.
À destination exactement de toutes nos entreprises.
Oui, tout à fait, Evelyne. Alors, effectivement, mais c'est un peu la remarque que vous avez faite à la personne avant moi, c'est qu'il faut se concentrer au début, il ne faut pas se disperser. Nous, notre technologie, notre vraie valeur ajoutée, elle est sur le particulier et le produit est conçu pour le particulier. Mais en même temps, il y a un vrai besoin dans les open space de reverdir notre quotidien. On sera sur un modèle économique qui sera un petit peu différent parce que je pense qu'on va tendre vers une prestation de service parce que vous ne pouvez pas juste installer 5 mètres carrés de salade comme ça dans les bureaux d'Europe 1. Si vous n'avez personne pour vous occuper un tant soit peu des salades, même si c'est très simple, il faut quand même du coup envisager une prestation de maintenance. Mais on y travaille, mais bon,
Il peut y avoir des distributeurs, en fait. Ça peut ne pas être vous en direct,
alors,
mais
voilà,
c'est
fameux. Pouvoir s'adosser à des gens, effectivement, qui proposent d'autres services dans, dans du facility management, comme on
dit. Exactement.
Voilà, tout à fait.
Moi, j'ai une question. Une fois que j'ai installé mon kit Lilo ou autre, hein, d'ailleurs à la maison, au bout de combien de temps j'ai besoin de régénérer les choses? Et parce que c'est là que je vais avoir un problème.
Alors, c'est Dame Nature qui va dicter le temps. Un basilic grand vert, pour prendre l'exemple, il va germer en 3-4 jours. Au bout d'un mois, vous allez commencer à le cueillir régulièrement. Donc, toutes les semaines, vous revenez sur votre basilic et vous lui reprenez quelques feuilles pour faire votre pesto, etc. Et ça, ça va durer pendant 4-5 mois. Et après, c'est son cycle naturel. Il va monter en fleur, comme on dit, pour faire des graines pour se reproduire. Et ensuite, il va se laisser péricliter parce qu'il aura mis toute son énergie dans la fleur. Donc, vous enlevez la capsule, qui est vraiment le point de démarrage d'ancrage de la plante, qui est biodégradable. Vous la mettez au compost et ensuite, vous remettez une nouvelle capsule pour repartir sur une nouvelle
plante.
Donc,
ça, c'est pour du basilic. Pour remettre une capsule de basilic que la première.
Tout à fait. Mais pour la salade, c'est plus court. La salade, en 6 semaines, vous avez une salade de 25-30 cm de diamètre. Voilà, donc ça dépend des plantes.
Ça dépend des plantes. Raphaël, vous êtes tentée par...
Je suis tentée par le bac aromatique.
Ah oui.
Le bac aromatique parce que j'adore cuisiner, évidemment.
Et puis c'est très frais, vous êtes sur des produits qui sont 100% frais, c'est vraiment de la graine à l'assiette, qui sont gorgés de goût. La différence entre un basilic grand vert acheté au supermarché et le nôtre, c'est bluffant, même pour des gens qui ne se connaissent pas bien.
Et vous allez vous étendre, je crois, sur le marché européen? C'est déjà en cours?
Tout à fait. La grande nouvelle pour nous, c'est l'Allemagne. On a ouvert l'Allemagne il y a un mois. Donc, on est très contents, très excités d'attaquer ce marché où il y a beaucoup de potentiel. Les Allemands sont passent peut-être moins de temps en cuisine, mais sont très friands de produits sains. Le marché du bio se porte très bien là-bas. Donc voilà, nouveau challenge pour Prêt-à-pousser.
Prêt-à-pousser, qu'on était ravis de recevoir en cette semaine du goût. Et oui, merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Vous restez avec nous, bien sûr, et vous décrochez votre téléphone. Si vous portez des lunettes de vue, par exemple, ou si vous avez une maladie oculaire, venez nous dire quelles avancées technologiques vous aideraient dans votre quotidien. Le 39-21, bien sûr, ça c'est le téléphone. Et Twitter, hashtag Europe 1.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. On va ouvrir ensemble aujourd'hui un dossier consacré à nos yeux et vous allez voir qu'en matière d'optique, il existe des innovations assez bluffantes. Cela s'avère plus qu'utile hein, quand on sait que 7 Français sur 10 portent des lunettes chez les plus de 20 ans, que le chiffre grimpe d'ailleurs ensuite à 9 sur 10 chez les 50 ans et plus. Il y a évidemment les maladies oculaires et puis la fatigue de plus en plus répandue à cause de nos expositions trop prolongées aux écrans. Bonjour Nathalie Villart.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Coach for Eyes. Alors Coach for Eyes, c'est une start-up dont l'objet est de faire tout simplement de la prévention de la fatigue visuelle digitale. Racontez-moi comment est née cette idée. Je crois que c'est à la naissance d'un de vos enfants que vous commencez en fait à vous intéresser, vous, à ce domaine-là.
Exactement. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le marketing et vers 30 ans, j'ai voulu donner un peu plus de sens en fait à ce que je produisais. Et du coup, à l'issue d'un bilan de compétences, j'ai été réorientée dans le domaine paramédical. Et puis, il s'est trouvé qu'un de mes enfants a eu des problèmes d'yeux. Et du coup, j'ai découvert cette formation
et ce métier.
Et voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est effectivement intéressant. J'ai passé le concours et je suis repartie 3 ans en études. Et c'était vraiment une expérience, une très belle expérience de redémarrer de la page blanche et de redécouvrir un milieu que je ne connaissais absolument pas.
Vous changez de voie et très rapidement, en fait, hein, vous vous apercevez, je crois qu'on est à peu près en 2005-2006, que la patientèle commence à changer. Qu'en tout cas, les problèmes qu'elle vient vous apporter ne sont plus tout à fait les mêmes. On est de plus en plus exposé aux écrans. Il y a une vraie fatigue qui commence à se manifester.
Exactement. En fait, quand vous êtes devant des écrans, aujourd'hui, on passe en moyenne plus de 7 heures par jour devant du digital. Donc c'est extrêmement traumatisant pour les yeux et il y a 3 niveaux en fait d'exposition. La première chose, c'est que vos yeux en fait bougent très peu, les muscles oculaires sont statiques. Deuxième chose, vous avez des réflexes neurologiques que vous ne faites plus, notamment vous perdez la notion du temps qui passe. Donc vous ne ferez jamais des pauses quand il faut. Et en plus, vous clignez entre 3 et 6 fois moins que la normale.
Ça veut dire que l'œil se fatigue davantage?
Exactement, et ça veut dire que l'hydratation en fait au niveau cornéen en fait est de moins bonne qualité. Et puis, in fine, comme vous êtes sur des écrans qui sont rétroéclairés, votre pupille et le sphincter de la pupille, en fait, est en permanence figé. Donc, ces éléments-là d'immobilité, complétés par des problématiques de pose et de clignement, vont accélérer, en fait, les problématiques de fatigue visuelle.
Voilà. Ça vous donne l'idée d'aller voir les DRH. Là, on est en 2010. Vous commencez à développer des actions de prévention. Et puis, vous partez aux États-Unis. Et quand vous rentrez, vous vous dites « Je crée Coach for Eyes et je crée une appli
pour essayer de mettre en place finalement cette déconnexion visuelle.
Exactement. En fait, ça a été un peu les US, on était en Silicon Valley, donc il y avait beaucoup d'applications, beaucoup de choses en fait qui se développaient sur cette thématique-là. Et on avait déjà commencé en fait à approcher les DRH et les médecins du travail par des ateliers de prévention et des conférences. Voilà, sauf que derrière, vous informez, vous sensibilisez les salariés, mais il n'y a pas de suite en fait, ça fait comme un plouf. Et nous, on voulait les faire ricocher. Et donc, du coup, on a créé l'application et la plateforme pour accompagner derrière les salariés. Alors, aujourd'hui, jusqu'à présent, on intervient en entreprise sur site et ensuite, on offre en fait la plateforme et l'application à ces salariés-là.
Alors, Elisabeth, je crois que vous avez fait le test, hein, le premier test.
J'ai fait le tout premier test.
De fatigabilité visuelle, c'est ça.
Il s'appelle comme ça, sur votre site Coach for Eyes. Alors oui, vous vous adressez aux entreprises, mais vous nous donnez la possibilité à nous particuliers de nous tester. Alors je ne sais pas si c'est un moyen pour vous d'accéder à l'entreprise, parce que du coup on est obligé de donner le nom de son entreprise, ce qui m'a un petit peu gênée. Moi j'ai envie de faire mon test sans que vous soyez, sans que vous sachiez forcément dans quelle entreprise quelle entreprise je suis. Donc d'abord on fait le test, une fois qu'on entre le nom de l'entreprise, son mail, sa fonction, vous demandez la fonction de notre emploi. Ensuite vous nous demandez le temps moyen passé devant un écran, un smartphone, une tablette, avec plusieurs, il y a plusieurs choix, moins d'une heure, entre 3 et 5 heures, plus, etc. Vous cochez. On vous demande si vous avez déjà une correction visuelle, donc si vous portez des lunettes, oui, non, si vous ressentez parfois des maux de tête. Et ensuite, on vous donne le résultat. Mais une fois que j'ai ce résultat, j'en fais quoi ?
Alors là, c'est le pré-test, en fait. Hein. C'est juste pour vous donner,
pour trouver des clients.
Et, voilà, et pour vous faire réagir aussi. Parce que dans toute cette démarche, en fait, la vision, c'est hyper important.
Bien sûr, oui.
Mais les gens ne se rendent pas compte en fait, de la puissance du visuel dans le quotidien. Aujourd'hui, c'est plus de 80% du sensoriel. 8 informations sur 10, sensorielles sur 10, passent par le visuel, quoi. En même temps, c'est le premier organe que vous mettez en éveil le matin et c'est le dernier que vous mettez au repos le soir.
Ouais, donc, pas mal, donc on ne s'aperçoit pas que notre œil est en danger.
Exactement. Donc du coup, c'est un peu une première approche. Mais effectivement, derrière, l'application qu'on a développée, elle va vous permettre d'avoir un profil beaucoup plus fin en termes de fatigabilité. Et en fonction de votre niveau de fatigabilité, vous proposez un programme d'exercice, à la fois de tonus, à la fois de détente, voilà, pour faire en sorte que...
C'est ce que fait l'orthoptiste.
Sauf que là, on est à titre préventif, en fait. On n'est pas du tout sur les mêmes outils. C'est des petits exercices de gym visuel et de yoga des yeux.
Alors, avec vos 8 applis par...
Eh ben, j'en ai une de plus que je vais vous raconter dans un instant. Mais alors, moi, je suis hyper convaincue, évidemment, par votre sujet. Vous êtes dans un travail d'évangélisation, on le sent, hein, même vous, la façon dont vous lui posez les questions. Donc, il faut évangéliser. Alors, moi, je suis déjà évangélisée parce que j'ai une application qui m'empêche d'être presbyte. Mmh. Et je gagne 8 ans, en fait, sur la presbytie. Donc, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire je suis une jeune gamine, ça se voit, mais je devrais porter des lunettes. Et depuis 4-5 ans, je n'en porte pas encore.
Vous avez 25 ans, comme moi.
Grâce à mon application qui s'appelle Glasses Off, et qui vous permet de vous entraîner et vous perdez totalement cette problématique de presbytie. Alors, je vous dis, j'ai gagné déjà 5 ans.
On va en parler de la presbytie tout à l'heure.
Mais ça veut vraiment dire que votre solution à vous, c'est une vraie bonne solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éviter d'aller chez le médecin, être en prévention, s'exercer, etc. Moi, je pense que vous devrez... Mais moi, je voudrais aussi faire une remarque parce que je suis allée voir votre site, j'ai vu la façon dont vous travaillez et je comprends maintenant que vous étiez directrice marketing parce qu'il y a un vrai marketing. Parce que je crois que vous avez compris que non seulement il fallait une solution digitale, mais il y a des ateliers, il y a des conférences, ça va au-delà. Donc, bravo pour la réalisation de votre projet.
C'est gentil.
Nathalie, clairement, l'entreprise, une fois qu'elle a installé ça sur les postes de ses salariés, une fois qu'elle vous a dit oui, on va avoir des petites fenêtres qui vont s'ouvrir et qui vont nous alerter, nous dire « Attention, là, ça fait 25 minutes que tu es sur ton écran. Va prendre un café, va prendre un verre d'eau. »
En fait, on a essayé de jouer le côté hyper ludique. En fait, c'est toutes les évolutions qu'on a menées jusqu'à présent, de façon à ce que ce ne soit pas non plus contraignant et que ce soit vraiment une sorte de jeu. Pour que finalement la prévention elle passe mieux derrière aussi et que les gens adhèrent complètement au produit.
Combien d'entreprises vous suivez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on travaille à la fois avec des entreprises dans les banques, on travaille avec maintenant des mutuelles, et puis on est en train de mettre en place des partenariats avec des opticiens aussi. Voilà.
Bon. On reste ensemble et on continue à parler de la santé de nos yeux aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si les lunettes pouvaient aussi nous aider, pas seulement à mieux voir, c'est tout le travail d'AEPEI. À tout de suite.
On parle de vos yeux dans La France bouge cet après-midi. Quelles sont les innovations qui améliorent votre confort visuel? Est-ce que vous portez des lunettes, des lentilles? De quelles innovations auriez-vous besoin pour soulager votre vue? Dites-le nous, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous sur Twitter @EuropeRaphaël.
Oui, parce que c'est vrai qu'on commence à porter des lunettes quand on est atteint de maladies oculaires, qu'on en met aussi de plus en plus, on vient d'en parler, pour reposer ses yeux. Mais l'optique peut aussi être utile, vous allez le voir, aux dyslexiques. Bonjour Mickaël Codochian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'Abeille. Abeille, on dit abeille, mais ça s'écrit comme un œil, E-Y-E.
Oui.
Vous avez développé l'Excellence. Alors l'Excellence, ce sont des lunettes destinées aux enfants dyslexiques. Ça n'est pas votre premier produit, et on va y revenir bien sûr, mais racontez-moi comment vous vous êtes intéressé à ce sujet-là précisément.
J'ai envie de dire presque par hasard ou une coïncidence heureuse. En fait, il y a eu une découverte scientifique en 2017 que j'ai découvert dans la presse. Et ça m'a interpellé, j'ai creusé le sujet. Une découverte scientifique qui portait sur une cause probable de la dyslexie. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen d'intégrer cette... En tout cas, d'utiliser cette information pour faire des lunettes qui aideraient les dyslexiques à mieux lire.
Du coup, vous avez fait 2 ans, c'est ça, de recherche et développement?
2 ans de recherche et développement, oui.
Et alors, je vais essayer de schématiser, bien sûr. Hein. Vous vous êtes aperçu que chez les enfants dyslexiques, il y avait une trop grande symétrie des yeux.
Oui.
C'est ça, finalement, qui les handicape au moment de l'apprentissage de la lecture et forcément de l'écriture?
Oui, alors je vais quand même rester modeste. Ce n'est pas moi qui fais cette découverte scientifique. Elle a été faite dans une université française. Et c'est à l'issue de 2 ans de collaboration avec les chercheurs de l'université de Rennes 1, Albert Lefoc et Guy Repart, qu'on a mis au point ce dispositif pour justement utiliser cette découverte. Alors, comme vous le disiez, cette découverte, que dit-elle? C'est que la trop grande symétrie des yeux pénalise le cerveau au moment de la fusion des images et du traitement de l'image pour la lecture.
C'est-à-dire que, grosso modo, les lettres se mélangent?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le traitement de l'image, à un moment, il y a une image miroir qui apparaît. C'est-à-dire que le B de Bernard devient le D de Daniel. Sauf que la trop grande symétrie des yeux, eh bien, donne 2 images de trop grande qualité et le cerveau fait la fusion. Donc vous avez le B et le D qui sont superposés, la lecture devient très difficile.
Du coup, vous avez mis au point des verres qui permettent de détacher les lettres.
Exactement. En fait, plus que détacher, c'est qu'en fait on filtre, c'est un filtre actif qui enlève le D, tout simplement. Donc l'image miroir indésirable, celle qui gêne la lecture, est enlevé, il ne reste plus que le B et la lecture est facilitée.
Alors ces lunettes, elles sont là, ce sont les lunettes grises, hein, oui. Ce sont celles-là qui seront bientôt sur le marché printemps-été 2020, c'est ça?
Voilà, exactement. Il y en a encore, on va dire, une petite année de travail. Ce que vous tenez entre les mains est un prototype. Donc là, on fait encore quelques ajustements sur la techno et également sur le design pour le rendre plus moins stigmatisant. On va dire. On s'attache à faire des lunettes qui ressemblent à des lunettes.
Vous travaillez avec Atoll, je crois, sur la commercialisation.
Plus que la commercialisation, en fait, nous sommes incubés par les opticiens Atoll. Ça procure deux avantages pour nous. Le premier, évidemment, d'un point de vue commercial, ça sécurise un premier marché qui est le français. Même si on a l'occasion, enfin, on a l'ambition d'aller à l'international, ça sécurise un premier marché. Et puis le deuxième, eh bien, c'est qu'on a accès à une expertise opticien de très grande qualité qui nous permet justement de dessiner et de concevoir des lunettes qui sont confortables, qui ressemblent à des vraies lunettes. Parce qu'en fait, personne, en vérité, n'a envie de marcher dans la rue avec des lunettes et que les gens se retournent, si vous voulez, sur votre passage.
Elisabeth, on parle là d'un marché bien particulier. Il y a une start-up niçoise qu'on avait reçue d'ailleurs, hein, ici dans La France qui bouge, qui, elle, travaille sur l'endormissement au volant.
Oui, c'est Healthy, E2LCIE, plus loin, HEALTHY, qui a conçu des lunettes connectées pour éviter de s'endormir pendant la conduite. Elles marchent bien. Ils ont attiré leurs premiers investisseurs là, cet été, qui ont injecté plus de 2,5 millions d'euros. Ce sont des lunettes truffées de capteurs dans les branches, sur l'avant de la monture. Elles sont baptisées Prudency, P-R-U-D-E-N-S-E. C'est souvent avec beaucoup d'anglicisme, hein, toutes ces innovations. Et donc, elles visent à prévenir l'endormissement du conducteur au volant avec un système d'alerte à la fois sonore et visuel via des LED intégrées.
Evelyne, notre coach, une question pour Mickaël.
Oui, en fait, vous disiez, on résout presque le problème, complètement le souci.
Il est prudent,
Bien sûr. On facilite la lecture. On constate, ça varie quand même d'un enfant à l'autre. Aujourd'hui, ce sont des modèles spécialement faits, surtout pour les enfants en priorité, parce que ce sont eux qui souffrent le plus de la dyslexie, puisqu'ils sont en phase d'apprentissage à l'école. Le meilleur moyen est quand même de les tester pour savoir si ça correspond à votre physiologie. On constate malgré tout que ça aide grandement beaucoup d'enfants, et en particulier ceux qui... on dit, plus vous êtes jeune, plus les bénéfices sont spectaculaires.
Voilà. Aujourd'hui, justement, vous avez testé ces lunettes sur combien d'enfants? Combien vous ont fait des retours?
Bien sûr. Alors, aujourd'hui, la lunette a été testée sur environ 150 enfants dans le cadre des recherches en laboratoire. Il y a également eu une seconde phase de test, bêta-test, en conditions réelles auprès d'une douzaine d'enfants partout en France. Et enfin, nous allons compléter ces premiers résultats par une vraie étude clinique qui nous permettra d'affirmer avec beaucoup plus sereinement le caractère efficace de la lunette et de pouvoir ainsi déposer une demande de remboursement auprès des autorités.
Et oui, parce que c'est aussi ça l'enjeu pour les enfants et aussi pour les parents. On reste ensemble et on va continuer à parler de nos yeux aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et restez avec nous parce que la Clarée arrive avec ses lunettes qui s'adaptent et qui corrigent la presbytie. A tout de suite.
Le dossier du jour dans La France bouge est consacré aux innovations pour vos yeux. Si vous avez des questions pour nos professionnels, appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, ou écrivez-nous sur Twitter à hashtag Europe 1 Raphaël.
Nous sommes en France entre 20 et 29 millions à souffrir de presbytie, maladie très répandue, qui est tout simplement la suite logique du vieillissement de nos yeux. Problème dont vous vous êtes emparé. Bruno Berge, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de La Clarée. Vous l'avez créé il y a 3 ans, votre entreprise, avec l'idée de développer des lunettes qui pourraient corriger la presbytie, parce que vous-même, vous en souffrez?
Oui, alors tout à fait. Donc nous, on s'adresse à une niche de la population, qui sont les gens qui sont presbytes, donc ils ne voient plus grand-chose en fait, de près. Hein. On est obligé de tirer sur les bras. Et puis, finalement, dans cette population, la plupart vont chez l'opticien et reviennent avec une paire de lunettes qui peut avoir des verres progressifs, par exemple, et ils sont satisfaits. Mais il y a à peu près 10% de la population qui continue à souffrir, c'est-à-dire qui n'arrive pas à s'adapter aux verres progressifs.
Donc, soit on a des verres progressifs et ça ne nous convient pas, soit on est obligé d'avoir plusieurs paires de lunettes.
Voilà, alors c'est ça. Donc, ça, c'est à peu près 10% de la population, mais ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même une gêne au niveau de la vie de tous les jours qui est assez importante, parce que plusieurs paires de lunettes, on n'a jamais la bonne. Enfin bon, c'est pénible, quoi. Et voilà, donc du coup, moi-même, j'ai eu du mal à m'adapter aux verres progressifs. Et donc, comme j'étais physicien, je travaillais dans l'optique.
Oui, parce que vous avez déjà développé avant des lentilles pour les applications électroniques. Hein,
c'est ça, voilà, tout à fait.
Donc l'idée, c'était pour vous d'arrêter de changer justement de lunettes et de permettre à ces gens qui n'aimaient pas ou qui supportaient mal les verres progressifs d'avoir quelque chose qui soit à leur mesure?
C'est ça, c'est exactement cette idée-là, c'est de mettre dans le verre de lunettes quelque chose qui est variable, en fait, qui permet de s'adapter. Alors, on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée, hein, il y a eu déjà des tentatives, mais en fait, je pense qu'on est les premiers à offrir une technologie qui permet de faire ça, un petit peu comme Mickaël le soulignait, sans que ce soit des lunettes lourdes ou inesthétiques. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir une technologie qui est puissante, qui permet de voir net, mais tout en étant complètement discret quand on regarde la paire de lunettes vue de l'extérieur.
Donc, dans ce verre, qu'est-ce qu'il y a? Une sorte de focus, comme dans un appareil photo, finalement?
Alors non, ça ne marche pas du tout comme dans un appareil photo. On a des fluides, en fait, c'est une technologie microfluidique. Et c'est très fin, hein, c'est une lame de fluide très avec deux fluides très minces.
Non, mais c'est ce que ça permet, ça fait un focus sur les...
Voilà, et ouais. Ça change le focus exactement pour le porteur, mais sans que de l'extérieur, on voit quelque chose bouger, en fait.
C'est breveté?
Oui, bien sûr, c'est breveté.
À plusieurs reprises.
Il y a 2 brevets internationaux, bien sûr. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin de ça pour se protéger dans les développements et garder l'exclusivité sur cette technologie.
Et comme pour Mickaël, ça n'est pas encore commercialisé?
Non, alors on est au tout début de l'aventure. Hein. On est 4 personnes, essentiellement une équipe technique. Et on développe le produit qui sera prêt dans 3 ans, c'est-à-dire 2022, mis sur le marché chez les opticiens en 2022.
Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il faut tout un tas d'autorisations avant la mise sur le marché pour
Ce n'est pas tellement les autorisations, nous, c'est le temps de développement du produit. Hein. On a fait déjà 2 générations de prototypes. Un premier qui ressemblait plus à un masque et qui était là pour... ce qui nous a aidé à tester et à valider le concept sur une dizaine de presbytes. Et puis là, tout récemment, on vient de développer un deuxième prototype qui a beaucoup plus l'allure d'une paire de lunettes. En face avant, il ressemble vraiment à une paire de lunettes. Et on va continuer à tester et à développer le prototype. Et voilà, c'est toujours long parce que c'est de l'électronique très miniaturisée. Voilà.
Puisqu'on est en train de parler de presbytie, Elisabeth, je crois que vous avez trouvé un masque qui permet justement aux personnes qui en souffrent et à celles qui sont atteintes de myopie aussi de pouvoir aller admirer les fonds marins.
Oui,
en
parce
clair.
Que bah, quand on fait de la plongée, en gros, le champ visuel normal il est d'environ 180 degrés. Il n'est que de 85 degrés avec quand on porte un masque classique. Donc il y a une entreprise française qui s'est dit je vais créer un masque adapté pour celles et ceux qui souffrent de myopie ou de presbytie pour aller faire un peu de plongée, pour admirer les fonds marins. Donc cette entreprise, ça s'appelle Demetz, D-E-M-E-T-Z, qui a créé ce masque de plongée pour ces personnes qui ont des troubles visuels. C'est comme sur des lunettes de vision, les verres sont ajustés par l'opticien et la correction de chacun des yeux peut être différente pour ensuite pouvoir aller plonger dans les fonds marins.
Evelyne, vous qui êtes une férue d'applications, notamment, comment s'appelle votre
application
Glassisoff, qu'est-ce que vous dites de ces lunettes?
Pourquoi pas, le plus tard possible en ce qui me concerne.
Dans 8 ans, hein, on
avait dit pour les 30 ans.
Exactement, hein, ouais, non, le plus tard possible. Dans votre business, il y a le verre, mais il y a la lunette. Quand il y a du verre, comme vous êtes en train de le traiter, vous êtes face à des très grands mastodontes, type Essilor, BGR et autres. Et ma question, c'est, en fin de compte, est-ce qu'ils ne vont pas vous racheter demain pour intégrer la techno?
Bon, écoutez, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Mais en fait, nous, ce n'est pas notre objectif. Hein. Notre objectif, il est vraiment de développer le produit complet. C'est-à-dire que nous, on va vendre la paire de lunettes complète avec la monture, les verres, tout intégré et effectivement à la vue de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'astigmatisme à l'œil gauche et qui est myope de l'œil droit, il sera corrigé parfaitement de ça. Et c'est ça, le fait de livrer la paire complète qui nous permet justement de livrer un produit qui est complètement optimisé à chacun.
Est-ce qu'on va avoir un problème de prix sur ce type de produit qui est très performant, qui est bourré de technicité, de technologie? Est-ce que ça va être ça, finalement, le premier handicap?
Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça ne coûte rien, mais enfin, disons, il n'y a rien de très cher, il n'y a rien de... Donc, en fait, nous, on vise justement d'arriver à des prix qui sont comparables à des paires de progressifs aujourd'hui. C'est clairement notre objectif et on y arrivera.
On reste ensemble et on va continuer à parler de nos yeux sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend 39-21 et Twitter, c'est la France qui bouge. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues. À tout de suite. Europe 1.
C'est votre vue qui est à l'honneur dans La France bouge cet après-midi. On parle des innovations pour vos yeux avec vos invités, Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Bruno Berge, fondateur de L'Aclaré, qui développe des lunettes adaptatives pour la correction de la presbytie. Michael Codochian, président fondateur d'Abeille, start-up qui développe des lunettes destinées aux enfants dyslexiques et des lunettes pour maintenir à domicile les personnes âgées en sécurité. Et avec Nathalie Villard, fondatrice de Coach for Eyes, une start-up sur la prévention de la fatigue visuelle digitale. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayek, bien sûr. Et notre coach, Evelyne Platnik-Cohen. Première question, celle de Christine. Christine qui a composé le 39-21 et qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Christine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je crois que vous avez une question pour nos invités.
Oui, j'ai une question qui, bon, j'espère, va rentrer dans le cadre. J'ai été opérée fin avril et fin mai de la cataracte au niveau des deux yeux. Et je porte des lunettes et j'aimerais... Donc, bien sûr, on m'a posé des implants. Et j'aimerais savoir si je peux faire de la gymnastique oculaire, puisque je fais partie d'un groupe de gymnastique pour seniors. Et la personne qui s'occupe de nous nous fait faire entre autres, de la gymnastique oculaire. Est-ce que ça peut être ennuyeux par rapport aux implants? C'est la question que je me suis posée. J'ai un peu peur, je ne sais pas, qu'ils se déplacent ou quelque chose comme ça.
Alors, Nathalie Villard va vous répondre.
Alors, bonjour Christine. En fait, les implants que vous avez eus ont été posés dans une capsule, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Et puis, toute la gym oculaire, en fait, elle va concerner vos muscles extraoculaires et intraoculaires, donc qui sont régis par les mêmes lois anatomiques que les muscles de votre corps. Donc, il n'y a aucune contre-indication à ce que vous fassiez travailler vos muscles des yeux.
Christine, on a répondu à votre question?
Voilà, tout à fait.
Bon, donc allez-y, ça ne peut être que bénéfique.
D'accord. Voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de nous avoir appelés au 3921.
Merci pour votre émission.
Merci voilà. Christine. Bon. À Bergerac, Christine qui a composé le 3921. N'hésitez pas, hein, vous pouvez continuer à le faire. On a une question Twitter, Céline.
Oui, de Marc qui porte des lunettes. Il est myope. Il souffre souvent des yeux quand il conduit la nuit, notamment avec des picotements et des larmes. Alors, il a cette question. Existe-t-il des solutions efficaces pour soulager ces picotements et ces larmes?
Qui peut répondre à Marc? Nathalie, Mickaël, Bruno.
Sur la vision nocturne, effectivement, c'est des conditions qui sont assez extrêmes puisque vous êtes dans le noir et vous pouvez être ébloui par les phares, d'une part. Et puis d'autre part, comme vous êtes en vision de loin, vous n'avez pas le levier de l'accommodation. Donc là, s'il y a des picotements et des larmes, c'est souvent des effets liés à la fatigue oculaire. Donc ça vaut, un, le coup d'aller voir l'ophtalmo pour vérifier que la prescription est correcte. Et deux, d'envisager un bilan orthoptique pour voir s'il n'y a pas une insuffisance de convergence ou une problématique là-dessus.
Voilà, on espère qu'on a répondu à la question de Marc. Elisabeth, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose qui existe aussi, qui rejoint un petit peu finalement ce que vous faites avec les écrans, Nathalie. Mais on a aujourd'hui des lunetiers qui peuvent venir dans l'entreprise.
Oui, tout à fait. Des lunetiers qui viennent directement dans l'entreprise. Par exemple, vous avez C-Evidentia qui s'installe dans les entreprises. Elle installe un espace optique. Il y a une application d'essayage virtuel. Et un opticien va pouvoir vous donner les indications qui correspondent à votre problématique. C'est une start-up qui vous propose de renouveler vos lunettes depuis votre lieu de travail et vos lentilles aussi à des coûts réduits. Apparemment, ils arrivent à vendre des montures, enfin, je dis, apparemment, c'est ce que dit le fondateur, entre 30 et 40% moins cher que la moyenne pour les mêmes produits avec la même qualité.
Alors justement, puisqu'on parle prix, Mickaël, je me tourne vers vous. Les lunettes pour les enfants dyslexiques, l'obstacle du prix, ce sera effectivement un problème ou pas? Ou est-ce que vous êtes d'ores et déjà en contact avec la Sécurité sociale, avec les mutuelles pour parler remboursement?
Alors, on n'est pas déjà en contact avec la Sécurité sociale.
Mais ce sera obligatoire.
C'est prévu. L'obstacle du prix, en tout cas, ne doit pas en être un, parce que nous, ce qu'on veut, c'est aider les enfants, en tout cas le maximum d'enfants. Ça doit donc rester une lunette abordable. Et aujourd'hui, ce qu'on espère, en tout cas, c'est que ça permettra de réduire le nombre de rendez-vous qui sont aujourd'hui, qui correspondent au traitement pour faciliter la vie d'un dyslexique. Donc, si on permet de réduire d'un côté, eh bien, ça permettra de compenser l'autre.
On a une question de Claudine de Nice qui nous a appelé au 3921 et qui nous dit: est-ce qu'il y a des lunettes pour les personnes atteintes de DMLA, des dégénérescences maculaires liées à l'âge, Bruno?
Alors, je ne crois pas, parce que la DMLA, c'est une atteinte de la rétine, donc qui n'est plus fonctionnelle. Il y a quand même des systèmes optiques qui permettent de grossir l'image et donc de faciliter un certain nombre de tâches de la vie quotidienne. Mais guérir ou corriger complètement, ça, je ne crois pas.
Mickaël, je voudrais qu'on dise un mot avant de se quitter de vos autres lunettes qui vont normalement sortir sur le marché cette fois d'ici la fin de cette année.
Absolument.
Et là, pour le coup, c'est une réelle avancée pour les personnes âgées puisqu'elles préviennent les chutes.
C'est pour les personnes âgées. Donc, c'est une lunette qui s'appelle la Tolzen et qui,
en fait, elle est là,
détecte,
hein, aussi.
Voilà, qui détecte en temps réel automatiquement la chute et qui prévient les secours, en l'occurrence notre partenaire Alliance Assistance.
Il y a un petit bouton sur lequel on peut appuyer.
Il y a un bouton qui permet de déclencher une alerte manuelle, et par ailleurs, la chute est détectée automatiquement. Et comme vous pouvez le constater, c'est une lunette qui ressemble à n'importe quelle autre lunette, qui est presque banale d'apparence.
Evelyne ?
Le sujet des yeux, on voit que on a plein de questions des auditeurs, c'est vraiment un sujet vraiment important. Et moi, j'ai vu sur Facebook, un chercheur israélien qui, a priori, peut complètement vous changer votre œil pour avoir une vue plus que parfaite à 120%. Et je m'étais dit, moi qui n'ai pas du tout envie de faire de chirurgie esthétique, ça, je me l'achèterais bien, parce que je pense que la vue, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, merci à vous trois de travailler sur des sujets aussi fondamentaux pour nous.
Merci
d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il
est 13h46.
Europe 1.
On reste ensemble. Elle est née en 1924. C'est la dernière entreprise familiale de bonneterie, la Manufacture Perrin, et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, figurez-vous que c'est la Manufacture de bonneterie Perrin. Bonjour Damien Schneider.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui en êtes le président aujourd'hui. Je crois que ça fait 5 ans, c'est ça?
Alors, ça fait 5 ans
que vous êtes dans l'entreprise.
Que je suis dans l'entreprise, mais ça fait tout juste un an que je l'ai reprise. Enfin, ou du moins qu'on l'a reprise, que j'ai deux associés, donc Constance Niquez, que j'embrasse, et Régis Gautreau, qui est le créateur de l'une de nos marques, Berthaud Grandpied.
Alors oui, justement, les marques, il y en a 4 des marques dans cette entreprise de bonneterie Perrin, on va en parler. Mais je voudrais qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire en 1924, on est à Monceau-et-les-Mines, c'est là que tout commence, avec un certain Francis Perrin, hein, d'où le nom, qui au départ a un commerce et qui d'un coup décide de se lancer dans la chaussette.
Tout à fait, donc c'est Francis Perrin qui a donc fondé la manufacture en 1924. Et qui sera ensuite rejoint dans les années 30, entre les deux guerres, par son fils, René, qui lui-même développera l'entreprise ensuite avec son neveu,
Guy Reynaud, oui.
Ouais, qui transmettra donc l'entreprise à sa fille, Martine, et à son mari, Franck. Voilà, Martine et Franck Couturier, qui sont nos amis et nos mentors, et qui nous accompagnent, moi et Constance, dans l'entreprise.
Qui sont toujours dans l'entreprise aujourd'hui, quatrième génération, c'est
Ils
ça
Ils sont toujours dans l'entreprise et donc on incarne avec Constance la cinquième. Voilà.
Entreprise qui traverse le temps finalement, qui a réussi à faire face à la guerre. Comment ça s'est passé? Il a fallu justement remettre au goût du jour, changer les machines, changer les lieux. Vous êtes toujours basé au même endroit?
On est toujours à Monceau-les-Mines, donc on est donc une manufacture de bonneterie. On fabrique tous nos produits exclusivement en France, donc dans nos ateliers à Monceau, donc au cœur de la Bourgogne. Si on en a aujourd'hui, c'est une question de choix, je pense. Je pense que bon, c'est difficile de résumer 100 ans d'histoire en 5 minutes, mais je dirais qu'il y a eu 3 grandes décisions qui ont été prises. La première, c'est la plus importante, c'est celle de la qualité. Celle de toujours vouloir faire de belles chaussettes, voilà, qui soient avec de belles matières, qui soient confortables, et surtout qui puissent durer longtemps. Et aussi celle d'avoir choisi de toujours travailler avec un réseau sélectif de distributeurs. Voilà, aujourd'hui, on travaille toujours avec ces distributeurs. On a 1300 points de vente en France. Faut savoir que aujourd'hui il n'y a plus qu'une dizaine de manufactures de bonneterie en France, quand il y en a eu 500 dans les années 30.
Oui, parce que la chaussette c'était un produit très français. Hein. Il y avait énormément d'entreprises qui en fabriquaient. On s'aperçoit qu'effectivement c'est en train de revenir au goût du jour. Vous avez réussi à garder cette exigence, cette qualité, en vous positionnant notamment sur des marchés de luxe parfois. Vous avez dû faire des choix aussi. Hein. Vous travaillez avec la grande distribution à un moment donné. Vous avez réaxé finalement votre stratégie commerciale. Aujourd'hui, vous avez ces 4 marques qui sont votre, votre base. 75% de votre chiffre d'affaires est fait avec elles. On a, vous le disiez, Berthaud Grandpied, Dagobert, Perrin, évidemment. C'est un choix ou c'est quelque chose qui a été forcé finalement par le système?
Non, c'est un choix de vouloir être positionné donc, sur des produits de qualité, donc sur du haut de gamme. On n'a jamais en réalité travaillé avec la grande distribution. C'est justement, je pense, une des raisons qui font qu'aujourd'hui, on est toujours là. Voilà,
mais vous travaillez avec des grandes marques,
IKKS
par exemple, à un moment donné, que vous avez abandonné parce que certains ont fait le choix d'aller produire ailleurs.
Tout à fait. Voilà. On a effectivement, à une époque, perdu certains clients qui ont fait le choix de délocaliser leur production. Et c'est effectivement donc à ce moment-là que l'entreprise a fait le choix de se réinventer et de miser sur ses propres collections. Voilà. Donc aujourd'hui, on crée, on fabrique et on distribue 4 marques, Berthaud Grandpied, avec des chaussettes très créatives, très fantasy, Dagobert à l'envers, avec des chaussettes et des boxers réversibles. La chaussette française, qui est notre collection haute couture de chaussettes, avec très belle matière. Et Perrin, qui est notre collection historique, voilà, avec des modèles plus classiques, mais très confortables. Voilà,
Que dit notre coach, Evelyne?
Moi, je suis allée voir ce que vous faites et c'est vrai que ce que je trouve très, très intéressant dans votre approche, c'est que vous êtes une vieille maison que vous modernisez. On voit arriver plein de nouvelles marques type le slip français.
Tout à fait.
Et en fin de compte,
on travaille, on est leur fabricant pour ce qui est de leur collection de chaussettes.
Donc, c'est intéressant et je pense que justement, ça a dû vous pousser aussi à revoir votre marketing, produit, votre marketing de marque. Et on sent que vous êtes sur la bonne voie. Moi, j'ai juste envie de vous dire, soyez encore plus insolents. Vous n'êtes pas loin, enfin vous êtes dans les codes, mais je pense qu'on peut être encore plus insolent sur ce type de produit.
Tout à fait. Aujourd'hui, on, on, On est, je pense, dans la mouvance. On est dans le vrai. On sent une attente des consommateurs qui sont en recherche de vrais produits, de produits de qualité, voilà, avec des valeurs, avec une histoire, et qui sont prêts à mettre le prix à condition d'avoir en face une qualité. Donc, c'est vrai que ça nous conforte aujourd'hui dans l'idée qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Une qualité, une histoire. Une qualité, une histoire.
Tout à fait.
Et c'est ce qui fait que vous avez aussi le label entreprise du patrimoine vivant. Ouais. 6,5 millions de chiffre d'affaires. C'est la manufacture Perrin. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Sur Europe 1. Merci Evelyne d'avoir été notre coach. On se dit à demain pour
Avec grand
la
plaisir.
France Bouge.
À demain, Raphaël Duchemin.